Alors, on va poursuivre notre étude et le défi qu'on s'est lancé, enfin que je vous ai lancé, de la lecture, de l'étude du livre des Actes des Apôtres. Nous avons fait il y a 15 jours Actes 1 et 2, et ce soir on fera Actes 3 et 4, Actes des Apôtres. Alors, petite question comme ça à la volée, qui est l'auteur du livre des Actes? Vous devriez tous le savoir, oui Sonia? Non? Non plus. Oui, c'est Luc le médecin. Oui, Luc, oui. Un trou de mémoire sûrement, parce que je sais que vous connaissez très bien les Écritures. Voilà, l'auteur n'est pas spécifiquement mentionné, mais par déduction, on sait que c'est Luc et qu'il était médecin. Voilà, exactement. Qui se rappelle combien il y a de chapitres dans ce livre? 28, c'est très bien. Bravo. Ensuite... autre question que je vous ai posée la dernière fois, qui était compliquée, mais donc la réponse devrait être plus claire. Dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, il y a une doctrine très importante pour la foi chrétienne. Est-ce que c'est l'Assomption, l'Ascension ou l'Exaltation de Christ? Voilà, c'est l'Exaltation, merci. Voilà, l'Assomption n'est pas biblique. L'Ascension, c'est simplement Jésus qui s'élève de la terre. Et l'Exaltation, c'est sa position, sa fonction actuel, qui est très cher à l'apôtre Pierre, et on va voir qu'il en reparle encore ce soir dans Actes 3 et 4. Dans Actes chapitre 3, petit test si vous l'avez lu, il est question d'un handicapé qui est guéri. Quel est son handicap? Voilà, c'est un boiteux, et le texte précise qu'il n'a jamais marché. Donc ce n'est pas un boitement, ce n'est pas une claudication, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui ne peut pas marcher. Et donc c'est un handicap, on va dire, lourd. Oui. Autre question, dans Actes 3.15, alors qui c'est qui peut lire bien fort Actes 3.15? Ah ben, il va venir au micro, parce que c'est enregistré ce soir. Alors quelqu'un, vite, vient devant et lit Actes 3.15.
Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins.
Merci. Alors, qui a été mis à mort? Quel est le titre de celui qui a été mis à mort? Le prince de la vie. Étonnant, hein? Pierre déclare, vous avez fait mourir le prince de la vie. Autrement dit, Dieu vous a envoyé celui qui va vous donner la vie éternelle et vous, vous l'avez fait mourir. Ce qu'il cherche, ce que l'apôtre Pierre cherche, il cherche le cœur de ses auditeurs en disant, mais voilà, Jésus était l'envoyé de Dieu, prince qui donne la vie, et vous l'avez fait mourir. Vous avez quelque part passé à côté de la chance qui vous est, chance entre guillemets, qui vous était accordée. Et c'est un verset qui est très très fort, qui nous révèle aussi que Jésus, il a ce titre princier, j'aime beaucoup ça, ce terme, prince de la vie. Donc acte 3, verset 15. Alors quelqu'un d'autre maintenant va lire, s'il vous plaît, acte 3, 18. Acte 3, 18, et puis aussi le verset 20. Alors qui vient sprinter devant? Acte 3, 18 et 20. Allons-y. Oui, merci. Donc le verset 18 et le verset 20.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qu'il vous était destiné, Jésus.
Merci beaucoup. Un titre qui est là mentionné aussi par l'apôtre Pierre dans son discours, c'est que Jésus est le Messie, avec deux facette dans ce Messie, on peut dire comme ça. Il y a le Messie souffrant, annoncé par les prophètes, et puis il y a le Messie glorieux. Donc c'est la même personne, Jésus est le Messie souffrant, il va souffrir à la croix, et puis il est glorieux, ça veut dire qu'il est exalté, il a repris la gloire qu'il avait avant de venir sur terre, mais en plus, il a la position la plus haute et le nom qui est le plus élevé. Et donc Pierre annonce simplement aux auditeurs et à nous que Jésus est ce Messie. Alors qu'est-ce qu'un Messie? Le mot Messie veut dire celui qui est oint, celui qui est désigné par Dieu, par onction, qui est choisi, et dans l'Ancien Testament, seulement trois catégories de personnes étaient choisies par onction. Soit il fallait être roi, donc déjà il fallait être un homme, voilà. Soit il fallait être roi, Parfois, les sacrificateurs étaient oints, et puis bien sûr les prophètes. Donc, soit roi, soit sacrificateur, soit prophète. Et Jésus réunit les trois fonctions royales, la sacrificature ainsi que le prophétique. Et donc Jésus, ce Messie-là, il est désigné par Dieu, celui choisi par Dieu avec ses trois dimensions. Et donc voilà, encore une fois, la boucle est bouclée en Christ. Et bien, on en sait des choses ce soir, hein, c'est bien. Là, on est calé sur ces chapitres 3 et 4, enfin 2, 3, voilà, choses importantes que je voulais vous communiquer. On va prier et puis après je rentrerai un petit peu plus dans le message. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est l'épée à double tranchant. Que ce soir, elle puisse toucher notre cœur, que nous puissions mieux te connaître, mieux entendre ta voix et qu'ainsi tu te glorifies, Seigneur. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans ces chapitres 3 et 4, plusieurs épisodes. La guérison miraculeuse du boiteux, qu'il n'est plus, puisqu'il saute et loue Dieu. Guérison instantanée, miraculeuse. On parlera tout à l'heure un peu de la puissance de Dieu et de la guérison de Dieu. Il y a ce fameux discours à la suite de ce miracle, et ça c'est formidable. Pierre, il saisit l'occasion, tout le monde est là, agglutiné autour de Pierre et de Jean et des apôtres, à cause du miracle. C'est génial, Pierre, t'es super bon en miracle, bravo. Et puis les gens s'accrochent là. Le texte biblique dit même... ça apparaît pas tout à fait en français, mais dans la langue d'origine, ça apparaît que le boiteux, il tenait par la main Pierre et Jean. Il les lâchait pas. Donc il saute, il bondit dans le temple, il l'a jamais fait. En plus, il était considéré comme impur, hein, parce que personne ne pouvait entrer dans le temple, dans cette zone-là, en étant handicapé. Il fallait être clean au niveau de sa santé. Lui, il peut rentrer parce qu'il est en pleine santé, donc Dieu le rétablit en communion avec lui. Et puis tout le monde le voit, et puis il revient vers Pierre et Jean, et il ne les lâche pas, quoi. Et là, il veut être le disciple de Pierre et de Jean, mais de Jésus, et certainement qu'il a continué à être disciple de Jésus. Après ça, on ne le sait pas. Donc, premier épisode, Pierre prêche, il annonce le message de la bonne nouvelle, donc vous le savez, du prince de la vie, du Messie souffrant, du Messie glorieux. Et puis il dit clairement, nous on n'a pas guéri, parce qu'il pense que tout le monde est aux autres, là, il y a une foule qui est en liesse qui est là. Il dit, nous, on n'a pas guéri, mais c'est le nom de Jésus qui a guéri. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et waouh, quel verset, hein ? Il faut que toujours l'Église puisse le dire, ça. Toujours, toujours, toujours. Et puis, acte 4, 12, là aussi, le message des apôtres est clair. Il y a de salut en aucun autre. Dieu nous a donné un nom pour être sauvés, un seul nom. C'est là où, en tant que chrétien, on n'est des fois pas très populaire. On est contre ce nouvel âge qui dit qu'il y a plein de chemins qui mènent à Dieu, il y a plein de religions qui mènent à Dieu. Non, il y a un seul chemin. Ce chemin, c'est un chemin que Dieu a ouvert pour nous au travers de Jésus-Christ. Et il faut le dire. Un seul nom. Puis entre, juste un petit truc à souligner, Pierre et Jean se font arrêter par le Sanhédrin, donc c'est le tribunal religieux et civils de l'époque. Ils se font tout de suite arrêter et puis on leur pose une question, mais au nom de qui avez-vous fait ce miracle ? Donc le Sanhédrin reconnaît qu'il y a eu miracle, la foule aussi a reconnu, eux ils reconnaissent, alors qui, par quel pouvoir vous avez fait ça ? Et Pierre affirme clairement que c'est par le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a rétabli cet homme et lui a donné une pleine santé, pleine santé. Et là, il aurait fallu inviter l'homme pour qu'il témoigne devant le Sanhédrin, ça aurait été pas mal, là, pour fermer, clouer le bec aux opposants. Voilà. Et puis, dans le chapitre 4 aussi, il y a non seulement cette arrestation, mais ils sont libérés, ensuite, les deux apôtres. Et après, ils retournent à l'église, enfin, à l'église qui se rassemble. Il y a une prière commune, très puissante, qui est là, extraordinaire. Et après, il y a un focus sur la vie d'église à l'interne. Donc après cette prière, voilà, il demande à Dieu que ça continue, la puissance de Dieu se libère, se manifeste malgré les menaces. Vous l'avez lu, je l'espère. Et après, on plonge dans la vie de l'église à l'intérieur. Comment ça se passe ? Et on voit qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie d'église ? Qu'est-ce que vous avez... Ceux qui ont lu le texte, qu'est-ce que vous avez remarqué ? dans la dernière partie de Acte 4, y a-t-il des choses qui vous ont frappé ? Voilà, la solidarité, très très forte. Comment elle se manifeste ? Voilà, il y a un élan qui est là. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun pauvre. Personne n'est dans le besoin. Donc, il y a un partage des richesses qui est là. C'est magnifique. Autre chose qui vous frappe ? Ils mettaient tout en commun. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils jettent l'argent aux pieds des apôtres. Vous n'avez pas vu ? Non, enfin, voilà. On expliquera l'expression, ce qu'elle signifie tout à l'heure. Oui ? Ils vendaient, voilà, ils vendaient les propriétés, ceux qui étaient propriétaires fonciers, exactement, tout à fait. Ils vendaient ça, donc ils le faisaient pas parce qu'on leur disait, mais parce qu'ils avaient une conviction, l'Esprit Saint qui leur montrait. Il y a une chose peut-être qui m'a frappé, c'est le verset qui dit « Une grande grâce reposait sur eux tous ». Il y a une grande grâce qui était là. Le Seigneur vraiment était au milieu d'eux et il y avait une grande grâce qui était là. Et bien sûr, parce que la solidarité fonctionnait très bien entre eux, entre ces premiers chrétiens-là, parce que les apôtres étaient libérés pour annoncer le message de l'Évangile et accomplir les œuvres de puissance qui devaient être accomplies, il y a une grande grâce qui est là, malgré l'opposition qui était intense, qui commençait à être intense. Voilà, petit parcours de Actes 3 et 4. Qu'est-ce qu'il faut un peu retenir ? Moi, deux, trois choses que je voudrais souligner. L'apôtre Pierre insiste encore sur la personne de Jésus. Le centre de mon message, le témoignage que je rends, c'est Christ est mort, il est ressuscité, il accomplit les promesses. Et ce Messie, c'est Dieu qui vous le donne, qui nous le donne, il vous le donne, recevez-le. Et il le dit aux gens religieux, au Sanhédrin, comme à la foule qui est là à la suite de la guérison du boiteux. Il y a 20 points qui concernent le Seigneur Jésus. Je ne vais pas les citer, les 20. Vous pourrez dans le texte les retrouver. Dans les 20 points, j'en souligne... Je suis perdu dans mes notes. Voilà, quelques-uns qui étaient aussi tout à l'heure dans les questions. Le prince de la ville, le Messie souffrant, le Messie glorieux. Et puis c'est le nom de Jésus qui donne une pleine santé. Et la guérison du boiteux est aussi un signe. Et je me demande si toute guérison n'est pas divine, toute guérison n'est pas un signe, qu'elle soit instantanée ou sur le long terme. Tout à l'heure, Marie-Claude disait, voilà, je vais de mieux en mieux. Toute guérison est comme un signe de la présence vivante de Dieu. C'est un point de vue personnel, c'est un signe d'amour de Dieu, que Dieu nous aime, qui veut nous donner la santé. C'est ce nom de Jésus qui a donné la pleine santé à cet homme. Et puis, Pierre mentionne plusieurs fois Jésus comme serviteur, le saint serviteur. C'est étonnant de voir qu'il est le roi majestueux et glorieux, on peut l'imaginer, entouré de gloire, entouré d'honneur, portant le plus beau des noms, et en même temps, il y a chez Jésus l'aspect du serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Et ça, c'est magnifique. Quel modèle ! Modèle que nous pouvons prendre pour nous-mêmes. Nous sommes serviteurs les uns des autres, dira l'apôtre Paul. Mettez au service des uns des autres le don que vous avez reçu. Ça, c'est l'esprit de Christ aussi. Hein. Magnifique ! Magnifique ! Prenons pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, puis il y a 20 autres points. Il y a une richesse dans ce discours de l'apôtre. Une chose que je veux souligner, c'est mon deuxième point, c'est que les apôtres ne se privaient pas d'annoncer le retour du Seigneur. Il est venu, il a vécu 30 ans avec nous à peu près, les 40 derniers jours, il était tout près de nous, il nous a parlé du royaume de Dieu, mais il va revenir. Il va revenir, et il va revenir en gloire. Et dans les écrits des prophètes, lorsqu'il est question du retour du Seigneur, il est question d'un jour de jugement. C'est pour ça que quand on lit ces textes qui parlent du retour du Seigneur, c'est associé à un jugement universel. Un jugement, enfin, de la terre, quoi, on va dire. On va déjà se limiter à ça. Un jugement universel où le jugement viendra pour les nations. Le jugement viendra pour Israël. Donc les nations, dans les générations, seront jugées. les nations, la nation d'Israël sera jugée aussi, parce qu'elle a tout reçu. Elle sera évaluée. Et puis en tant qu'individu, les impies, comme dit l'Écriture, ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est ça littéralement, un impie c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve de piété, la piété c'est l'amour pour Dieu, ceux qui ne veulent pas aimer Dieu, ceux qui refusent le message de l'Évangile, la Bible parle aussi des méchants, seront aussi jugés comme le diable sera jugé. Voilà, retour de Christ dans nos têtes, dans nos cœurs, il devrait y avoir la notion du jugement. Alors les disciples, ils étaient très concernés par cette notion de fin des temps. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie, les choses dernières. Et la venue du Seigneur s'appelle la parousie. Voilà, si vous lisez des fois des livres là-dessus, c'est la venue du Seigneur Jésus. Les apôtres l'ont annoncé, même les anges l'ont annoncé. Donc c'est quelque chose de certain, c'est de sûr. Il y a dans l'Évangile une imminence du retour de Christ. Il vient très bientôt. Il vient bientôt au temps des premiers chrétiens. À combien plus forte raison, nous, à notre génération, il est tout proche. Et un auteur avait dit, puisque dans l'évangile de Jean, il est parlé que, il dit, petits-enfants, c'est la dernière heure. Et il disait, cet auteur-là, si c'était la dernière heure au temps des apôtres, c'est la dernière minute pour nous. On est à bout touchant de ce retour du Seigneur. Et puis en même temps, il y a un paradoxe, c'est que ce retour, la date du retour, elle ne nous concerne pas. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir établir ton royaume ? Jésus dit, mais c'est que le Père qui sait cela. Donc ça ne vous concerne pas. Mais vous, veillez et priez, parce que vous ne savez pas. Et ça nous pose la question, comment on occupe nos soirées ? Comment on occupe nos veilles ? Alors on peut regarder Netflix, on peut regarder tout ce qu'on veut, mais la priorité, moi je veux bien regarder Netflix, ça ne me gêne pas de temps en temps de voir un épisode ou autre, pour autant que ça, ouais, ça soit bien, assez bien, on va dire. Mais voilà, ma priorité, elle est dans mon cœur pour Christ et pour le Seigneur. Veillez et priez, tout un programme hein, là aussi. Veillons et prions, particulièrement dans ces temps de pandémie. Seigneur, apprends-nous à veiller et à prier. Donc voilà cette exhortation qui nous est donnée dans les Écritures. Donc il n'y a pas, et puis assez vite, alors que les disciples et les apôtres prêchaient ce retour de Christ, eh bien, il y avait presque une pression excessive par rapport à ça. Et on sait que dans l'église des Thessaloniciens, il y avait une personne, à chaque fois qu'ils se réunissaient dans les réunions, il y avait un chrétien qui était dévoué pour aller dehors pour voir si Christ n'allait pas revenir. Donc il y avait cette instantanéité-là du retour de Christ. Au point que l'apôtre Paul est obligé de leur écrire une deuxième lettre en disant « Écoutez, il n'est pas encore là et en attendant, faites tous vos efforts pour mener une vie sainte, pour être irréprochable, que celui qui ne travaille pas, qui est feignant, se mette à travailler, qui travaille honnêtement, de ses mains. » Voilà. Donc il y a cette idée-là qui va revenir tout de suite, mais le tout de suite appartient à Dieu. Vous comprenez le paradoxe là ? Donc attention, vigilance, on ne sait pas l'heure, mais il va revenir. Que l'Église soit attentive. C'est ça le message de l'Évangile. Et ce soir, on peut encore s'en rappeler. Donc, préparons-nous, soyons prêts. Je n'aimerais pas que le Seigneur revienne alors que je n'aurais pas fini mes tâches, voire pire, que j'aurais péché, que je n'aurais pas avoué mes fautes. Là, je veux que les choses soient bien en ordre dans ma propre vie et que le Seigneur nous aide, comme disait mon prof d'eschatologie par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide. Voilà, mais l'imminence, elle est là et le retour n'est pas encore là. Veillons et prions. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, en effet, c'est cette puissance qui est là, qui se manifeste dans la première Église. Il y a comme, dans un des emplois que j'ai occupé avant d'être pasteur, mon patron m'avait demandé de mettre en place une série de normes et d'appliquer ces normes au laboratoire de mesure là où je travaillais. Donc j'étais dédié à mi-temps, d'abord pour éplucher toutes les normes qui concernaient le domaine où je travaillais là, et ça commençait à être très lourd. L'Europe avait mis en place beaucoup de normes, et moi je ne suis pas un bureaucrate dans l'âme, mais voilà, il m'avait mandaté pour ça. Et puis il y avait des procédures qui étaient là. Et j'ai un petit peu l'impression, en voyant la guérison du boiteux, que Pierre et Jean appliquent entre guillemets une procédure glorieuse pour que ce boiteux soit guéri. Tout d'abord, il l'aime. Il est connu de tous, ce boiteux, hein, parce qu'il est dit qu'il était amené à la porte. Et je vous rappelle, il n'avait pas le droit de rentrer parce qu'il n'avait pas, il remplissait pas les critères. Quelle est un peu cette procédure de foi ? Ça procède de l'esprit de foi, mais voilà, un petit peu de discipline peut-être dans la guérison des malades. Une procédure qui peut être une équation égale. Un don de foi. Un don de foi. Pierre et Jean ont une confiance en Jésus qui est là. Ils ne mettent pas en doute que cet homme peut être guéri. Ça s'appelle un don de foi. Le don de foi, c'est un petit peu mystérieux quelque part. C'est un charisme que certains reçoivent. Ce n'est pas à la demande comme ça, mais certains le reçoivent. Et puis, ils peuvent avancer confiants que la grâce de Dieu va se manifester. Donc, Pierre et Jean, on ne les voit pas en train de se dire « Tu crois que Jésus veut le guérir, cet homme-là ? » Non. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, don de foi pour ceux qui prient pour les malades. Don de foi que Dieu veut guérir. Don de foi pour ceux qui prient pour la délivrance des captifs. Don de foi. Deuxième chose, le don de foi entraîne la parole de foi. Si je suis sûr que le Seigneur veut te guérir, donc là je suis dans la position de celui qui va prier pour le besoin de la personne, si je suis sûr que Dieu veut te guérir, alors ma foi va librement s'exprimer. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Oh, ça va être dur de te lever, mais essaye quand même. Non, lève-toi. Il y a un ordre de foi qui est donné là, une parole de foi. Et Jésus, on le voit plusieurs fois, le faire, le dire. Lève-toi et marche. Ta foi t'a sauvé, etc. Des paroles de foi qui sont là, qui procèdent don de foi. Troisième chose, il y a un geste qui est fait. Il lui tend la main. Et le boiteux, eh ben, il a tendu la main, il n'avait pas les mains handicapées. Et tac, il se lève. Et au même instant, équation, ça déclenche la force qui vient dans ses chevilles. L'impotence s'en va par la puissance, la toute-puissance de Dieu. Alléluia, hein ? Puissance. Donc, don de foi, parole de foi, geste de foi égale miracle, instantané. Génial, hein ? Ce boiteux-là. Il a pu sauter dans le temple, louer Dieu, et tout le monde l'a vu. Alors, quelques petites définitions. Je vais vous donner ça. J'ai un livre que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle « Allez et guérissez par la puissance de Jésus », que je recommande. L'auteur est décédé, John Wimber. Concernant la guérison, il donne quelques définitions. La guérison divine, guérison par l'intervention directe du seul vrai Dieu. Le Dieu, personne vivante, révélé dans les Écritures et en particulier en Jésus-Christ. Guérison divine. Le diable fait aussi des guérisons. Il fait des guérisons. On ne peut pas le nier. Il y a des gens qui vont voir des guérisseurs et après ils s'en sortent. Ils sortent guéris. Ils ont non seulement plus les symptômes, mais voilà, les choses sont. Le diable, malheureusement, peut en partie, en tout cas, guérir. Ce sont des esprits mauvais, bien sûr, qui font ça. La source n'est pas la même. On est d'accord. Et après, il y aura un besoin de délivrance. Mais il en fait quand même. Guérison divine. Guérison intérieure. Processus par lequel l'Esprit Saint donne le pardon des péchés, le renouveau émotionnel à des personnes souffrant d'esprit, volonté et émotions blessées. Et ça, c'est fantastique de voir notre Seigneur qui s'intéresse aussi à notre être intérieur et à penser nos blessures. Autre définition, guérison miraculeuse. Toute guérison qui est surnaturelle, ce qui comprend les guérisons de Dieu, par Satan ou par des démons. Peut-être ça trouble ce que je vous dis, mais il y a des guérisons miraculeuses, encore une fois, qui sont de la partie adverse. Guérison par la foi, et ça c'est intéressant, guérison qui est attribuée à la foi de la personne et au nom de Jésus-Christ. Quand on apprend un diagnostic, qu'on est malade, c'est bon de se nourrir des promesses de Dieu, de guérison en Jésus-Christ. Et quand vous êtes mûr, ça m'est arrivé il y a 2 ans, vous le savez la plupart d'entre vous, quand vous êtes mûr, vous pouvez dire, Seigneur, je commence à faire une démarche de foi avec toi. Je ne suis pas dans un don de foi, c'est-à-dire l'action puissante du Saint-Esprit qui est libérée par une foi, on va dire, extraordinaire ou surnaturelle. Mais je suis dans une démarche de foi. Quand on fait un appel après une prédication, voilà, qui a besoin de la prière, c'est une démarche de foi qui est faite là. Peut-être qu'il y a un don de foi en même temps, hein, ça, ce n'est pas à opposer, mais il y a un don de foi qui est là, je suis prêt à recevoir et à saisir par la foi ma guérison. Donc il y a une démarche de foi qui est là. La femme qui était atteinte d'hémorragie depuis pas mal d'années, elle avait vu plein de médecins dans l'évangile de Luc, elle fait une démarche de foi. Voilà, elle veut toucher Jésus, elle se prépare, elle a entendu parler de lui, et elle sait que si elle vient toucher Jésus, elle sera guérie. Donc il y a cette démarche qui est là. Et moi j'aimerais vous encourager, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre santé, il y a quelque chose qui est là, eh bien préparez-vous, demandez l'onction d'huile quand ça sera le bon moment. Jacques chapitre 5, ne le faites pas en disant l'onction d'huile va me guérir, mais soyez prêts intérieurement. Et j'ai foi en mon Dieu qui va utiliser les personnes qui prieront pour moi, qui vont me oindre d'huile au nom de Jésus-Christ. Alors ça c'est intéressant, c'est vraiment aussi une grâce que Dieu nous fait. On a le devoir de préparer notre foi en vue de quelque chose, voilà, si on a compris que le Seigneur voulait nous faire du bien dans nos corps. Donc voilà, je recommande, si jamais, la lecture de ce livre, Allez et guérissez. Il y a aussi un autre tome qui s'appelle Allez et évangélisez par la puissance de Jésus. Guérison divine, guérison intérieure, miraculeuse. Et cet homme l'expérimente. Et mon dernier point, donc, c'est la solidarité. On le voit dans ce texte de Acte 4. Il y a une mise en commun des biens. Cela permet, cette mise en commun des biens, aux apôtres d'annoncer l'évangile. Imaginez Pierre qui ne peut pas annoncer l'évangile, qui n'est pas soutenu financièrement et qui doit aller retourner pêcher dans son lac de Galilée. Ça, voilà, il aurait été à côté de la mission que le Seigneur avait pour lui. Et c'est un ministère, la mise en commun des biens permet aussi qu'il n'y ait pas d'indigence au sein du peuple de Dieu. Alors l'expression « au pied des apôtres », il y a un certain Barnabas, Barzabas ou Barnabas ? Quel est son nom ? Je devrais le savoir. Barnabas, merci. Le fils d'encouragement, le fils d'exhortation. On ne saura rien de plus sur sa vie à cet homme-là, si ce n'est qu'à un moment donné, il a vendu et l'argent qu'il a retiré de cette vente, il l'a apporté aux pieds des apôtres. Alors, qu'est-ce que veut dire cette expression « aux pieds des apôtres » ? Eh bien, il met l'argent aux pieds des apôtres, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'il les a jetés comme une adoration aux apôtres, même pas du tout, parce que Pierre ne supportait pas ça. Hein. Il ne fallait pas qu'il soit adulé, et les apôtres non plus. Mais Barnabas a mis à disposition des apôtres un acquis, une vente qu'il avait faite, afin que ceux-ci soient responsables, donc les apôtres soient responsables de la distribution selon les besoins. Donc on mandate les apôtres, on les voit dignes de confiance pour qu'eux-mêmes fassent la distribution. Et on voit que plus loin, dans Acte 6, eh bien, ça va les dépasser, cette notion de distribution financière, parce qu'ils devront nommer, l'Église devra nommer des diacres par rapport à cela, qui seront chargés de la distribution. Voilà, donc c'est une expression qui est là, et une expression qui montre qu'on fait confiance aux apôtres pour la gestion des finances. Voilà. Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose pour terminer ce message, la mise en pratique. Alors, on ne peut pas malheureusement faire des groupes de prière, mais j'aimerais qu'on fasse soit chacun à sa place, soit par... je ne sais pas comment exactement organiser ça, mais si vous êtes le même foyer, ben vous restez ensemble, bien sûr. Mais j'aimerais vous proposer un petit temps de prière. Ce court temps de prière, il est là pour nous rappeler, et faites-en une prière, « Seigneur, prépare-moi à ta venue. » Pierre a parlé de cette venue. Deuxième chose, donc la première chose, venue du Seigneur. Deuxième chose, le miraculeux. Accueillir le miraculeux du Seigneur, je dirais encore plus. Et encore plus humblement. Encore plus humblement. Donc accueillir le miraculeux de Jésus. Et puis Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension de grande grâce. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et cette grande grâce, donc, qui est liée à la solidarité, à l'annonce aussi de l'Évangile, bien sûr. Alors, est-ce que c'est possible ça ? On prend un temps de prière. Voilà, en petits groupes. On fait comme ça. Je suis assez clair. Par deux ou trois, voilà, ceux qui sont un peu du même foyer. Alors, les trois, oui. La venue du Seigneur, que le Seigneur nous prépare à sa venue, qu'on accueille le miraculeux de Dieu, et puis qu'une grande grâce repose sur nous tous. D'accord ? Venue de Jésus, miraculeux, grande grâce. Voilà, prenons 5 minutes pour cela.
Dans le sens de cette grande grâce qui nous accompagne, qui est sur nous, on demande à Dieu cette grande grâce sur nous. Il y a, au chapitre 4, c'est aussi écrit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme ». Et aussi qu'on peut, on veut vraiment être dans cette unité de cœur et unité d'âme. Et c'est là aussi que cette grande grâce de Dieu va se déverser dans cette unité. Amen.
Alors, moi j'ai un petit témoignage à vous donner. Donc, c'est un grand témoignage. La semaine passée, j'étais avec 4 amies et on s'est retrouvés en groupe. Et puis, on a prié les unes pour les autres. Et puis, il y en a une qui avait des douleurs vraiment au dos depuis le matin. Et puis, là, on s'est retrouvés le soir. Et c'est pas confortable du tout, mais effectivement, il faut faire des actes de foi où j'ai fait cet acte de je dis, je vais prier pour ton dos, quoi. Alors, je vais poser les mains tout simplement. Puis, j'ai demandé au Seigneur qu'il la guérisse, qu'il lui enlève les douleurs dans le nom de Jésus. Et en fait, elle a été, y a tout qui est parti, elle n'a plus mal du tout. Le lendemain, elle m'a remercié, elle a remercié le Seigneur surtout parce que c'est lui qui agit. Et c'est un petit témoignage comme ça pour encourager chacun parce que tout le monde peut utiliser ce don que Dieu nous a donné.